Il est 9h41, l'instant M, ça passe vite, mais ça en dit long.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Une foule d'actu ce matin dans notre toute petite émission. Des remous à France Télévisions, des séries et des dessins animés français qui se vendent mieux que jamais à l'étranger. Une très belle revue qui nous fait envie et qui vous fera sûrement envie à vous aussi. Et puis cet échange inédit, musclé, par voie de presse interposée, que l'Instant M va vous décoder. Le New York Times publie des témoignages de femmes musulmanes. Pour Manuel Valls, cet article, je cite, « donne une image insupportable de la France ». Il répond au quotidien américain qui rétorque. Bonjour Rachel Donadio.
Bonjour Sonia.
Vous êtes correspondante du New York Times à Paris. Il fait nuit noire sur la côte Est. On a eu pitié d'eux. On a invité la correspondante. Allez, bienvenue à vous tous. Hashtag Instant M.
L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Tension à France Télévisions. Élise Lucet, désormais en charge de envoyé spécial, a mis en chantier une enquête sur l'affaire Big Malion. Elle recueille le témoignage exclusif de Franck Attal, acteur clé de ce micmac financier. Fureur, manifestement, au siège des Républicains, raconte le journaliste Renaud Revel dans son blog. Mais bras de fer également du côté de France Télé. Ici, deux versions s'opposent. Pour le canard enchaîné, publié ce matin en kiosque. Michel Field, directeur de l'info, est très embêté par ce brûlot. Nicolas Sarkozy doit être le premier invité de l'émission politique lancée le 15 septembre. Field aurait donc exigé que la diffusion d'envoyé spécial soit repoussée après les primaires. Refus d'Élise Lucet. Du coup, il l'aurait avancé à demain soir dans une version écourtée. Colère de la journaliste, l'enquête n'est pas terminée. L'interview de Franck Attal se retrouvera peut-être, finalement, dans le JT de 20h ou dans Envoyé spécial, c'est à voir. Chez France Télé, on explique que c'est simplement la volonté de sortir le plus vite possible un scoop et de coller à l'actualité. Alors, pendant ce temps-là, parce que l'affaire Big Malion ne s'arrête pas là, dans Le Parisien, Patrick de Carolis, c'est l'un des anciens PDG de France Télé, mis en accusation dans cette affaire. Il livre ses vérités. Je le cite dans son interview du Parisien. Il invoque Camille Pascal, son ancien secrétaire général. « Je maintiens que les contrats signés étaient excellents, mais je ne peux pas laisser dire que c'est moi qui les ai signés. Et puis je ne comprends pas pourquoi l'équipe qui a pris ma suite à la direction de France Télévision n'a pas été inquiétée alors qu'elle a signé les mêmes contrats que moi. Le contrat en cause porte de 2008 à 2013. Or, j'ai quitté mes fonctions en 2010. » Se tient en ce moment à Biarritz le grand marché du programme audiovisuel. Nos programmes télé s'exportent mieux que jamais. C'est même une croissance historique, un chiffre record. Alors que vend-on et à qui? Mathieu Béjot de France TV International détaille les chiffres pour l'Instant M.
L'animation reste vraiment le leader en termes de l'exportation. On estime qu'on est le troisième exportateur au monde après les États-Unis et le Japon. Vous avez par exemple les Chroniques de Zorro qui s'est vendu sur les 5 continents, sur les grosses propriétés Garfield qui est fait en France.
Oui.
Si le personnage, évidemment, à l'origine n'est pas français.
Alors le documentaire français voyage également en dehors de nos frontières.
À l'échelle internationale, le documentaire a beaucoup évolué. La France est restée un peu traditionnaliste, si j'ose dire, et du coup, tous les gens qui cherchent du documentaire un peu classique se tournent beaucoup vers la France. Notamment tous les documentaires historiques, il y en a eu beaucoup l'année dernière sur la Deuxième Guerre mondiale, les Apocalypse qui ont fait le tour du monde, jusqu'au dernier, Délivrance. On est attendu aussi sur des documentaires sur les arts, sur la gastronomie, sur la culture. Les aventuriers de l'art moderne qui mélangeaient un petit peu animation et archives, c'est très bien vendu aussi à l'international. Nous avons une projection de la série « À pleines dents », la série de Gérard Depardieu, qui suscite beaucoup d'intérêt à l'international sur la gastronomie vue par un monstre sacré du cinéma français.
Et alors, quid de la fiction? Est-ce que nos séries télé se vendent à l'étranger face au flux extrêmement massif de la production américaine?
L'année dernière, la fiction a dépassé le documentaire comme deuxième genre à l'export, avec une assez grande diversité, c'est ce qui fait la force d'ailleurs de notre production. Des grosses productions en anglais type Versailles qui s'est vendue absolument partout à travers le monde.
Voilà, donc ça c'était une coproduction Canal+.
Qui a été diffusée sur BBC Two en Angleterre avec d'excellents résultats d'audience.
Le village français
Le village français continue de voyager, a été diffusé l'année dernière en Allemagne par exemple. Mm-hmm. On a vu aussi une très belle carrière des témoins à l'international.
Et puis la particularité des témoins avec Thierry Lhermitte, c'est que ça a été diffusé en Angleterre avant même la France, ce qui est rare pour une série de France 2.
C'est un cas de figure vraiment exceptionnel, oui, ça arrive rarement. L'Espagne, qui traditionnellement était un gros marché pour nous, a été complètement sinistrée par la crise. Et l'année dernière a très bien rebondi, puisqu'on a une croissance de 70% de nos ventes sur le marché espagnol.
L'Afrique, petit à petit, s'impose vraiment comme un marché pour les programmes télévisés français ?
Écoutez, l'Afrique, oui, est en train de se renforcer. D'ailleurs, c'est pas un hasard si un certain nombre de groupes français se développent sur l'Afrique. C'est le cas du groupe Lagardère, c'est le cas du groupe Canal également. Les droits de, par exemple, Parents Mode d'Emploi, les droits de remake donc, pour faire une version locale ont été vendus au Gabon l'année dernière. Donc on va avoir une version locale de Parents Mode d'Emploi. Et on sent bien que ce marché est en pleine ébullition, reste un petit peu compliqué. Mais nous travaillons, nous allons tous les ans sur un salon qui se tient à Johannesburg, à la rencontre des diffuseurs africains.
Voilà, ben écoutez, nous attendons de pied ferme le Parent Mode d'Emploi gabonais. Merci beaucoup Mathieu Béjot et nos amitiés à la Côte Basque. À très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Il n'y a pas que la télé dans la vie. Chaque semaine, l'Instant M s'est mise en tête de vous faire découvrir une revue. C'est l'Instant Papier. Là, vous allez voyager, explorer avec relief.
C'est une revue trimestrielle, une revue à la croisée des sciences et des lettres, de l'aventure et de la géographie. Le premier numéro est consacré aux abysses, le second aux tropiques et le troisième aux pôles. Donc un entretien qui ouvre à chaque fois la revue avec une figure marquante de l'exploration et de l'aventure aujourd'hui. Là pour le numéro 3, c'est Reinhold Messner, une légende vivante de l'alpinisme. Le premier à avoir conquis les 14 sommets au-dessus des 8000 mètres.
Vous démarrez ce numéro 3 de la revue Relief par un texte de Théodore Monod.
Jusqu'au 19e siècle, les scientifiques étaient des aventuriers. L'exploration de la planète n'était pas terminée. Maintenant, il faut plutôt chercher à savoir comment le monde qui nous entoure fonctionne et surtout comment l'homme va se conduire à l'égard de cette petite boule si fragile tournant dans l'univers. Je trouve que le texte décrit assez bien l'esprit de Relief et surtout l'esprit de cette collection.
Page 8, géographie nostalgique.
Page 78, pingouins et albatros à Kerguelen.
Page 40, Arctique, Antarctique, géopolitique d'un miroir brisé.
En fait, à chaque fois, on aborde le thème par des prismes différents. Donc, il y a le prisme scientifique. Là, par exemple, ça va être climatique avec Jean Jouzel. Il y a le prisme de l'aventure, de l'exploration, mais aussi des sujets abordés de manière un peu plus poétique et iconographique. On donne des conseils de lecture, des conseils même de musique à écouter, de films à aller voir. Le but, c'est toujours de faire passer un savoir tout en faisant rêver le lecteur au maximum, de donner envie d'apprendre. Voilà.
Relief, au micro d'Anne-Cécile Perrin, encore une revue qui déploie des trésors d'élégance et de graphisme. Elle coûte 19 euros.
L'Instant M, avec Sonia De Villers.
Alors le sujet du jour, Rachel Donadio, c'est cet échange totalement inédit, musclé, entre un grand quotidien américain que vous représentez en France, le New York Times, dont vous êtes journaliste depuis 12 ans. Au New York Times, vous êtes l'ancienne correspondante à Rome, vous êtes à Paris depuis 3 ans, et Manuel Valls, notre Premier ministre. Juste un mot, vous êtes combien de journalistes à Paris, Rachel ?
Plus ou moins 8 personnes dans le bureau du New York Times ici à Paris.
Voilà, cette enquête, elle a été réalisée depuis Londres, l'enquête incriminée par Manuel Valls. Vous êtes combien de journalistes à Londres ?
Plus ou moins 25 personnes. Et la collègue à Londres, Lily Drummer, qui a fait le sondage, mm-hmm. qui a fait ce papier, c'était fait à Londres, oui.
À Londres, voilà. Comment définiriez-vous la ligne éditoriale du New York Times pour que tous nos auditeurs puissent vous situer dans le paysage de la presse américaine ?
Nos pages éditoriales sont centre-gauche, je pense. Centre, mais bon, dans le journalisme, on fait un journalisme d'enquête sérieux. C'est plutôt ça. On est très indépendant.
Voilà. Et il faut bien préciser aussi qu'au New York Times, il y a une religion. Il y a un mur qui sépare, un mur, cher oui. à Donald Trump, oui, oui. un mur, un vrai, qui sépare la partie journalistique du journal de sa partie publication de débats, opinions, tribunes, etc. Là, pour le coup, c'est deux mondes très séparés.
Exactement. Et le papier duquel Valls a réagi, c'était fait par le parti journalistique. On a fait un sondage.
Par la rédaction. Alors, je raconte à tout le monde et je précise que Thomas Legrand nous a rejoint parce qu'il s'est intéressé aussi à ce sujet. C'était pas prévu au programme, mais il y a consacré son édito politique ce matin. Salut Thomas.
Salut.
Bienvenue dans l'Instant M, puisqu'il a débarqué comme ça à l'improviste. Alors, il s'agit d'un très long article publié le 2 septembre par le New York Times qui a mis le feu aux poudres. Je précise, là aussi, c'est important que cet article a été publié en anglais, mais traduit en français. Vous le faites régulièrement, Rachel Donadio ?
Parfois, on l'a fait. On suit une ligne éditoriale en ce moment qu'on n'est pas seulement un journal américain-anglais, mais aussi en présence globale. Et parfois, on traduit des choses en français. Ce papier était traduit en français parce que beaucoup des réponses de sondages de femmes musulmanes en Europe, ils ont répondu en français.
En français, voilà. Alors, son titre, « Regard changé et langue déliée, des musulmanes évoquent l'Europe d'aujourd'hui ». Vous allez sur la page de l'Instant M, franceinter.fr, on vous a glissé un lien pour que vous puissiez le lire. C'est important de le dire, « Regard changé », changé est entre guillemets, c'est donc une citation de femmes interrogées. « Langue déliée », c'est également une citation. Et puis, il s'agit de l'Europe et non pas seulement de la France. Réponse très énergique, Rachel Donadio, vous l'avez vu, le 5 septembre, de Manuel Valls par voix de Huffington Post. Pourquoi est-ce que Manuel Valls se sert du Huffington Post pour répondre au New York Times ?
Il a pensé que notre papier a donné une mauvaise image de la France. En fait, ce qu'on a fait, c'est que pour nous, donner la parole seulement aux personnes au pouvoir, c'est pas le journalisme, c'est plutôt la transcription. Et nous, comme journalistes, on essaie aussi de donner la parole à d'autres personnes, disons-nous, normales, qui n'ont pas beaucoup, souvent, l'occasion de le faire. On a fait un sondage duquel 1250 femmes musulmanes en Europe ont répondu. De ça, on a choisi 50. On a contacté le 50 pour confirmer leur nom, prénom, s'ils sont qui ils disaient d'être. Après ça, on a fait des photos de chacune. Pas seulement voilées. Le premier ministre a dit qu'ils ont tout voilé. C'est pas vrai. Aucun voilé, d'autres non. Et bon, on voulait avoir une occasion que les femmes musulmanes peuvent parler de leur expérience en Europe.
Alors,
comme femmes musulmanes, après
sondage,
le burkini. Parce que, bon, on parle beaucoup du burkini au niveau politique, c'est un débat politique, mais on voulait donner la parole à des femmes intéressées dans
le
sujet.
Et le New York Times s'est beaucoup intéressé à la question du burkini et a multiplié les papiers sur la question.
Oui, ça c'était l'énième papier, c'était pas le premier.
Papier, oui. Voilà. Donc Manuel Valls vous fait manifestement une pub d'enfer. Il a choisi un média publié en français et en anglais, le Huffington Post. Quand vous dites un son sondage, c'est ce qu'on appelle un appel à témoins.
Oui.
Cet appel à témoins, il a été lancé en trois langues, français, anglais, arabe.
Oui.
Et il a été lancé sur Internet. Justement, Thomas Legrand, vous vouliez réagir. Et ça vous a fait réagir, cette méthode
sondage,
journalistique.
C'est pas une enquête journalistique. C'est une façon de faire du journalisme, mais c'est pas une enquête journalistique. Et ça donne finalement la parole à celles qui répondent à cet appel.
Oui,
et
exactement.
On imagine que la française moyenne qui veut répondre à cet appel ne le fait pas, c'est plutôt les gens qui sont proches d'une instance. Et par exemple, il y a une femme que vous présentez comme une professeure et qui en fait était une membre du CCIF.
Elle est prénommée Karima.
Voilà, Karima qui en fait était une formatrice de salafistes de gens qui retirent leur école de la République de l'école de la République. Donc c'est pas il y a pas mal de réponses de gens qui sont très impliqués. Et pour les Américains, c'est des représentants d'une communauté, donc c'est tout à fait normal, et ce que vous avez fait est honnête, mais c'est dans le cadre d'une vision un peu communautariste des choses. Et nous, on a une vision un peu différente, d'où l'incompréhension entre Manuel Valls et le New York Times. Il faut
alors,
bien comprendre
justement,
ça, je pense.
Manuel Valls souligne le fait qu'il est mal compris par la presse internationale, que son action est mal comprise, que la conception d'une laïcité à la
laïcité
française
est
mal comprise à l'international et du côté des Américains. Comment vous voyez-vous ce gap culturel? culturelle?
Bon, d'abord, je pense qu'il n'a pas lu beaucoup de papiers en anglais qu'on a déjà publiés en donnant la parole à lui et en expliquant l'idée de la laïcité en France. Il a trouvé cet appel à témoignage plus. Bon, on n'a pas fait des enquêtes très approfondie ouais, sur le background de toutes les personnes. C'est naturel qui répond au appel. C'est peut-être quelqu'un qui déjà lit le New York Times. Quand même, j'ai jamais vu quelque chose comme ça dans un journal français.
Vous voulez dire ce type de démarche,
oui, parce que ici, il y a
qui est très fréquente de la part du New York Times. C'est-à-dire que les appels à témoins en ligne sont très fréquents.
C'était une approche journalistique de donner quelque chose en plus de nos papiers normaux.
Les journalistes français font des tas d'enquêtes en donnant la parole à des gens. Mais c'est vrai que l'appel à témoins, on ne le fait pas parce que souvent, ceux qui répondent sont des organisations, sont des gens organisés et le lobbyisme est maintenant très organisé. Et c'est pas le tout venant qui répond, ce sont des gens très organisés. C'est le biais de votre enquête, me semble.
Je pense qu'il y a des questions de méthodologie et aussi les questions d'idéologie ici. On voulait donner quelque chose en plus pour donner une chance à ces femmes musulmanes de répondre. On n'a pas fait une enquête sur le background d'eux, mais on pense que c'était quelque chose en plus qu'on a fait. On n'a jamais dit, on a fait,
vous
on a
dire,
parlé
en
avec...
En plus de toutes les enquêtes qui ont été faites par le New York Times sur la situation
en
France.
C'est aussi un expériment dans la méthodologie, comment le public peut participer et peut faire partie de notre journalisme.
Alors là, vous mettez le doigt aussi sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on voit bien que le New York Times a 1,5 million d'abonnés numériques, c'est un chiffre colossal par rapport au chiffre des journaux français. Et puis en plus, l'anglais, c'est comme le Guardian, on voit bien que le New York Times et le Guardian participent à une conversation mondiale, ce qu'ont beaucoup de mal à faire finalement nos grands journaux français.
Mais peut-être ce qui est frappé, c'est ce que les femmes ont dit, parce que il y a quelqu'une qui a dit « Bon, je porte le burkini et c'est pas un problème. » Et il y a qui dit « Il me dit de rentrer chez moi, même si je suis française. » Et je pense qu'on doit parler des réponses de ces femmes et pas seulement de réponses politiques. Que...
Bien sûr, parce que le racisme existe quand même en France, il ne faut pas le nier.
Alors, la tribune de Manuel Valls commence par le rappeler. Il ne nie pas les problèmes que rencontre la France. Ceci dit, manifestement, il commet une exactitude. C'est-à-dire qu'il dit que cet appel à témoins a été lancé après quelque chose qui a fait scandale en France cet été, l'organisation d'un camp d'été décolonial. Et là aussi, le New York Times a rectifié. L'enquête a été lancée avant cela et a reçu bien plus de témoignages que le nombre de gens qui ont participé.
On a fait l'enquête entre le 22 et 25 août. Et je pense que cette autre chose, c'était après, on ne savait rien de ces choses-là. Mais je pense qu'il y a, comme vous avez dit, c'est difficile de se comprendre entre les États-Unis et la France pour ce qui regarde la laïcité et tout ça. Parce que pour nous, ici en France, le communautarisme, c'est le mot le plus difficile ici en France. Mais aux États-Unis, il y a un autre mur entre l'État et l'Église. Mais la religion et l'identité ethnique religieuse fait partie de la vie quotidienne et de la vie politique
et
de la société.
En communauté.
Oui,
c'est
un peu. Par exemple, on a un président noir, il était critiqué pour le fait qu'il n'a pas parlé assez du fait qu'il est noir. Ici, en France, ça ne se passerait jamais. Alors, il y a beaucoup de.
En France, personne ne sait si le président va à la messe ou pas, de quelle religion il est, et ça n'a pas d'influence.
Chaque pays a son histoire, mais c'est compliqué en ce moment d'expliquer un peu la France aux États-Unis. C'est aussi un peu difficile pour la France s'expliquer. On ne comprend pas. L'idéologie de la laïcité et les faits réels dans la vie quotidienne.
Merci beaucoup Rachel Donadieu du New York Times. Merci d'être venue dans l'instant même. Un dernier mot pour vous dire que France Inter a été triplement récompensée hier soir au prix CB News des médias. Meilleur coup éditorial pour 12 jours dans la peau d'un migrant, en reportage d'Omar Waman. Meilleure opération pour le programme Interclasse que pilote dans les collèges ma consoeur Emmanuel Davier. Et meilleure radio, c'est la fin de l'émission. Ali Rebéi.
Sonia De Villers, est-ce que vous mangiez des salsifis quand vous étiez enfant?
Bah bien sûr.
Ah bon, bah gros mensonge. Vous êtes vraiment spécial. Ce matin, on s'intéresse au goût et au dégoût de nos enfants, au dégoût alimentaire.
Ça va être musclé au standard 45-24-7000.